Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur La Route Inconnue, le magazine de Radio Rantiel entièrement dédié à la poésie, celle qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui. Je vous rappelle que La Route Inconnue bénéficie du parrainage de la revue légendaire de poésie, revue papier bien sûr, Décharge, qui est dirigée par Jacques Morin, et dont certains des contributeurs font partie aussi eh bien, des chroniqueurs réguliers sur La Route Inconnue. Ainsi, retrouverez-vous en seconde partie d'émission notre ami Claude Verset. Vous retrouverez aussi notre ami poète Cécile Guivarch, animatrice d'un site extrêmement important aussi en poésie contemporaine, c'est Terre à Ciel. Et puis Patrick Joquel, poète et romancier, qui fermera la porte et éteindra la lumière en partant tout à l'heure. Mais eh bien, première partie d'émission, j'ai le grand plaisir de recevoir, j'ai deux personnes autour de moi, et surtout, vous savez que d'habitude, ça se passe au téléphone généralement, parce que bah, y a certains poètes qui habitent très très loin de Chartres, et puis il y en a d'autres qui viennent en chaussons, ça arrive de temps en temps, c'est le cas de Nicolas Gruskiewicz, qui est poète, qui est libraire, et qui nous revient avec Au matin de la grande journée, son dernier opus publié aux éditions La Centaurie. On va passer donc cette première demi-heure avec vous, Nicolas. Et à ma gauche, il y a Cédric Merlan, que vous connaissez sur Radio Rancien, parce que tout simplement, je l'ai déjà interviewé pour présenter ses livres. Mais il est aussi devenu le lecteur attitré de La Route Inconnue. C'est lui dont vous pouvez entendre les belles graves tout au long de ces quinzaines. Et c'est lui qui lira donc au cours de cette émission des poèmes extraits de Au matin de la grande journée de Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Bonjour Cédric.
Bonjour Christophe.
Alors c'est un vrai plaisir. On va peut-être se tutoyer parce que on a l'habitude de se tutoyer. Ça va être difficile de tenir comme ça en vous voyant. Donc ça fait vraiment très plaisir de te voir. Tu étais venu une fois pour présenter un atelier que tu animes.
Qu'on animait, oui. En vue d'une auto-édition, enfin c'était, ouais. On travaillait.
Et ben, donc depuis, tu as fait du chemin, parce que trois livres sont parus, trois recueils de poésie. On va remonter le temps très très loin, très très loin, très très loin. Et moi, j'aimerais connaître, faire la connaissance du petit Nicolas, si j'ose dire. C'est-à-dire le Nicolas qui avait 10 ans. Où es-tu né? Dans quel milieu? Dans quelle famille? Est-ce qu'il y avait des livres, etc.? Dis-nous tout.
Alors, je suis né en 65, dans le 93, à Aubervilliers.
C'est Nico d'Aubert.
C'est Nico d'Aubert, voilà. j'ai beaucoup lu, j'ai lu très tôt. Je suis issu d'une famille, mes grands-parents étaient immigrés polonais. La lecture a vite été un refuge. Voilà, j'ai fait des études de lettres ensuite. Mais c'est vrai que j'ai lu très tôt. Oui. Très tôt, de tout. Un peu de tout ce qui me passait sous la main. Voilà.
Est-ce qu'il y avait des livres à la maison? Il y avait cette culture à la maison?
Non, pas spécialement. Non, pas vraiment. C'est surtout à l'école. Oui. À l'école, et puis ensuite au collège et au lycée, que je me suis vraiment... je suis devenu un dévoreur, quoi.
Ouais. C'était plutôt...
Je lisais plus avant que maintenant, d'ailleurs. Bien que libraire, je crois que je lisais plus.
Ah ben, quand on est libraire, c'est bien connu, on n'a plus le temps de lire. On fait lire les autres, c'est un beau métier aussi pour ça. Et d'ailleurs, je sais que tu l'exerces avec beaucoup de passion, parce que ta passion de poésie, pour la poésie, entre autres, parce qu'il n'y a pas que la poésie, mais ta passion pour l'Asie, tu sais la transmettre et tu prends ce risque à la librairie L'Esperluette, on va le nommer à Chartres, d'avoir un vrai rayon poésie. C'est devenu
Alors,
très très rare. Hein.
C'est un travail de longue haleine, ça. Il faut en parler deux minutes. Quand Olivier Lostis a repris les rênes de Le Guay, en fait, le rayon poésie se limitait au NRF poésie. Et moi, je m'étais donné le... Enfin, j'ai parié sur le fait qu'un jour, on en sortirait et qu'on aurait des choses pointues, voire très pointues, de tout. Et il y en aurait partout, surtout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rayon. Elle habite, comme le dit mon ami Frédéric Brun, l'éditeur de poésie, elle habite partout, quoi. Elle est sur toutes les tables. L'idée, c'était de la transmettre, de la faire circuler, et j'y suis parvenu. Ça m'a pris 10 ans. Un peu plus de 10 ans.
C'est-à-dire pour fidéliser, créer un lecteur.
Voilà, tout à fait. Avec des gens qui viennent spécifiquement pour voir certains ouvrages, qui savent qu'ils les trouveront là, ou échanger, simplement échanger, parler, voilà. c'est quand même, ça a été un travail de longue haleine. Et il faut toujours battre le fer. Il ne faut pas relâcher ça. La tension, voilà. C'est... Et puis, bon, bah, j'ai de bons lecteurs aussi qui viennent, n'est-ce pas, Cédric, qui sont avides de belles choses et de découvertes aussi. Il y a aussi des choses moins bonnes. Il y a toujours les poésies Gallimard qui sont excellentes, mais il fallait en sortir. Il fallait mettre autre chose, avoir une offre beaucoup plus généreuse et. Plus engagé, je trouve.
Oui, d'autant que le paysage éditorial français en matière de poésie est très, très étoffé, hein, très divers,
riche, très riche.
Ouais, ouais, ouais. On ne s'en rend pas compte. Ouais. Alors, j'en reviens quand même, excuse-moi, mais à ta genèse personnelle. Quels étaient tes auteurs de chevet quand tu étais jeune, par exemple, à l'adolescence?
Camus, ouais. Kafka. Pas spécifiquement poésie, hein. Oui. C'était Camus, Kafka, il y avait effectivement André Dautel que j'avais lu, London, les grands classiques, hein, en fait, oui. Stephenson, et avait déjà un goût prononcé pour les lectures qui m'emmenaient ailleurs, quoi. Oui. Qui m'emmenait dans des grands espaces et ces choses qu'on retrouve peut-être un petit peu, enfin oui, dans les deux premiers recueils.
Dans les deux premiers recueils, ouais, 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 ouais. Il y a une amplitude, une ampleur du vers, une occupation de la page. Ça, on peut pas le montrer aux auditeurs, bien sûr. Ça, mais il faut tout simplement.
Et donc, oui, c'est important, ça. C'est cette respiration.
Cette respiration, ouais. Un souffle, voilà.
Ouais, c'est un souffle.
Un souffle.
Qui correspond à un souffle personnel, en fait. Hein. Je pratique un peu. Comme le faisait Flaubert, l'épreuve du gueuloir, c'est-à-dire que je lis à voix haute et je vois où se pose le souffle ou pas. Et selon. Et puis la nécessité du mot juste aussi qui doit être placé un peu comme une balise, comme un phare.
Oui.
Donc d'où ces diffractions, ces éclats de mots comme ça.
Oui, oui. Alors la découverte. De la poésie, elle s'est faite à quel âge, en fait?
Elle s'est faite à l'adolescence, comme beaucoup, ouais. Avec Baudelaire. Voilà, j'ai commencé à écrire. Au début, j'écrivais des sonnets. 14-15 ans, j'écrivais des sonnets. Je travaillais beaucoup, je voulais vraiment que ce soit des vrais sonnets qui sonnent comme des sonnets. Je m'amusais à faire des rimes riches, des enjambements, des contre-rejets, des choses comme ça. J'étais fasciné par ces techniques, quoi. Puis avec le temps, en relisant, bon... voilà, ça perd un peu de sa saveur.
Alors, ceci dit, ça revient un peu, hein, puisque oui, Valérie Rousseau a publié un livre de sonnets il n'y a pas si longtemps que ça. Là, oui.
Puis, il y a eu un grand blanc, hein, qui coïncide avec mes études, mon parcours professionnel, et puis une urgence qui s'est fait sentir en 2015, l'urgence d'écrire.
Ouais.
Ça s'est imposé, hein, en fait, voilà. J'en parlais à Cédric en venant tout à l'heure ici en voiture. L'enclenchement de ces trois recueils s'est produit en 2016, en fait, précisément. Le premier texte a été posé en 2016.
Ouais.
Je ne savais pas qu'il allait figurer à la fin du dernier recueil, du triptyque.
Oui, c'est un triptyque. Hein.
Il faut le prendre comme tel. Ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres. On va retrouver dans le dernier des thèmes des deux premiers, avec un moment, une zone de fracture, où je nous renvoie à nous-mêmes, aux questions qu'on doit se poser pour aller ou non dans le sillage de cette grande journée qui s'annonce,
ouais.
Qui est la nôtre aujourd'hui, qui est...
Qui est
nos vies, il suffit de regarder les actualités, il suffit de voir, voilà. Donc j'évacue un petit peu tout ce qui était porteur, tout ce qui était nourricier, la nature... et pour se centrer sur nous, quoi, nos comportements. Autre chose, tout ce qui est, je voulais l'évoquer, ici c'est important, la nature est importante, donc j'ai fait le choix de citer notamment des animaux que je n'ai pas forcément croisés dans ma vraie vie, qui sont les apalousas, qui sont les chamois, j'en ai pas vu ou vaguement aperçu. Je me suis documenté.
C'est dans les westerns, peut-être.
Oui, Zapalousa, oui. Non, mais c'est surtout un cheval remarquable. Mais si tu veux, je me suis vraiment documenté pour pas faire de boulettes, pour être sûr de voilà, il faut qu'il y ait pour moi une plausibilité pour le lecteur.
Il y a un imaginaire, te concernant, me semble-t-il, aussi assez américain, parce que on n'a pas parlé de la découverte de la Beat Generation, mais je pense qu'elle a été importante, peut-être aussi pour toi. Non,
elle a été fondatrice. Cette nécessité d'écrire au fil de la pensée et de retravailler ensuite, bien entendu. Les grands espaces américains sont porteurs de sens pour moi, ouais. De sens et puis de mouvement. Enfin, c'est là que je vois le mouvement surtout. Et, voilà. Et un homme très important, un auteur très important, à la fois très grand poète, essayiste, Gary Snyder. Oui. Voilà. Qui est vraiment, pour moi, m'a accompagné dans les premiers textes, de par sa présence, son omniprésence. Ce pas de côté qu'il fait quand on le lit. Ouais. Quand on lit Gary Snyder, on fait un pas de côté. Et du coup, je voulais qu'on...
Et cette énergie aussi.
Oui.
Une espèce d'énergie extraordinaire. Voilà.
Aussi un auteur que tu m'as transmis, Sam Amil.
Ah oui.
Que j'ai découvert grâce à toi. Et ce que l'on sait... qui est remarquable, qui est juste bouleversant, quoi. Donc, c'est des auteurs qui ont compté, ouais, effectivement.
Oui. Cette dimension, il y a une dimension aussi physique dans l'écriture de ces auteurs. Quelque chose qui
il y a un engagement du corps.
Du corps, voilà.
Il y a un engagement du corps et on rejoint le principe de la respiration et des éclats de mots. Et c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est physique, ouais.
On pourrait peut-être demander à Cédric, qui intervient quand il veut, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais peut-être de lire des passages du dernier livre de Nicolas Grudziewicz, Au matin de la grande journée. Je rappelle, édition La Centaurie.
Voilà. Au commencement était l'ocre, sonore au soleil d'est. Puis vinrent les chevaux sauvages, et la prairie prit l'heure de la falaise. Alors s'accomplit le voyage des mots. Nous voici dans la vallée des origines, à l'aube du premier cri.
Poème inaugural.
Inaugural qui reprend le thème de l'ocre qui navigue, qui translate du second recueil à celui-ci. Oui, tout à fait.
Alors, est-ce qu'il symbolise quelque chose, l'ocre ?
Oui, c'est une vision en fait, ça correspond à une vision. Il faut imaginer dans le sud de la France, dans le Lot, précisément, le matin, le Lot serpente au pied d'une falaise, le soleil se lève, il vient percuter la falaise et elle prend cette couleur d'ocre. Ça me touche, ça me traverse, cette vision me traverse parce que cette couleur me bouleverse, c'est quelque chose de charnel. D'ailleurs, les couvertures des ouvrages.
C'est ce que j'allais dire.
C'est
ce qui est très étrange, c'est que j'ai lu ce matin un haïku qui parlait de la couleur ocre, que depuis deux jours, nous avons une couleur ocre à Chartres,
à Chartres, du sable sarien.
C'est ce qu'on évoquait en venant, oui.
C'est absolument stupéfiant.
Et alors, oui, c'est très important. Donc, je décide d'y dédier un recueil complet, qui est donc le second, « À ma fenêtre souffle l'ocre », parce que dans cette, au pied de cette fenêtre, la fenêtre était entrebâillée, il y avait les haïkus de Kerouac posés devant la fenêtre, et le vent faisait tourner les pages. Je me suis dit, tiens, le vent est en train de lire mon bouquin, quoi. Il partage avec moi mon livre. Donc il y a ces visions qui me traversent et à lesquelles je ne peux pas ne rien faire. Oui. Je ne peux pas ne rien dire. Il y a de la matière.
Il
y a de la matière. Ça s'impose. Je dois y aller, quoi. Donc des fois c'est très simple, des fois c'est très compliqué. Il faut trouver le mot juste, mais c'est ocre. Alors et j'apprends par la suite. Je ne savais pas du tout que l'ocre est une couleur qu'on utilise en peinture pour faire des corrections, pour mettre plus de lumière, pour effacer des choses, quoi. Voilà. Très curieux.
Un outil à part entière.
Ouais, puis je m'aperçois aussi, après coup, que Ingrid Jonker a écrit un recueil de poésie dédié à l'ocre aussi. Ouais. Enfin, c'est très curieux. Ouais.
Alors, tu as parlé d'un triptyque. Est-ce que tu avais, quand tu as écrit le premier livre, l'idée d'un triptyque ou est-ce qu'elle s'est imposée au fur et à mesure ?
Oui, en fait, alors là, on en parlait avec Cédric en venant ici. J'avais l'idée d'une succession d'ouvrages dont, pas forcément trois au départ, mais dont un finirait l'histoire. Moi, je vois ça comme une chronique poétisée, c'est-à-dire que quand j'en parle aux gens qui veulent l'acquérir, je leur dis de jouer le jeu, de le lire du début à la fin, sans picorer en première instance, parce que ça raconte une histoire. Et d'ailleurs, Valérie Guévard, mon éditrice, a surenchéri en gommant tous les titres, parce que chaque poème était titré, elle a tout effacé, elle enlève la pagination de manière à ce qu'il y ait un continuum. Donc il faut le lire comme ça. Alors, figure-toi que le hasard fait que le premier texte qui a été écrit en 2016, qui déclenche l'aventure, n'était pas destiné à être publié. C'est un texte qui me touchait énormément, que je gardais sur moi, quasiment, comme une relique. Et il est l'antépénultième texte du dernier recueil. Il se pose là, sans que je le veuille.
Il attendait.
C'est
très étrange.
Il attendait sa place, et c'est après parution que je me rends compte qu'il est là. Donc l'histoire est finie, quoi. J'avais vraiment un triptyque en
C'est
tête.
pour ça que tu m'as dit, ça c'est le troisième,
C'est le dernier.
c'est le dernier, voilà.
Ça clôt une histoire. Ça clôt. Oui, bien sûr.
Est-ce que tu as dit que donc tout s'est imposé finalement à toi en 2016. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour laquelle ça s'est imposé à toi à ce moment-là? Est-ce que
Ben, je pense qu'il y avait déjà une ouverture d'esprit différente, un calme, une paix intérieure sans doute liée à ma vie personnelle, intime. Je me sentais bien, du coup j'étais plus ouvert à accueillir des choses, à les mettre en forme. Voilà, c'est très particulier, très subjectif, mais je pense qu'il y avait quelque... Alors il y avait une urgence, d'un côté, le paradoxe, c'est qu'il y avait une urgence, quelque chose d'un peu pressant, mais à côté... La possibilité de le faire, enfin, la possibilité de...
Est-ce que tu avais accumulé aussi un certain nombre de matériaux à travers les lectures, à travers un vécu, qui fait que là, subitement, ces matériaux ont trouvé un débouché dans l'écriture?
Oui, c'est ça aussi, ouais. C'est-à-dire c'est une espèce d'accumulation de centaines, de milliers de choses comme ça, qui sont posées à droite, à gauche, sur du papier, j'ai des carnets partout, j'écris tout le temps en fait, hein, même au travail. C'est de la matière ou pas, c'est selon. Je suis très friand de cette idée. Vous savez, Philippe Jacotet qui pratiquait la technique de la self-oblitération, qui mettait du papier gommé dans ses poches. Avec un crayon noir, il partait dans la nature, il écrivait sur le papier gommé, il fourrait ça dans ses poches, papier à cigarette. Et vous doutez bien que après quelques jours, ce papier avait perdu de. Et les textes étaient effacés. Du coup, il ne gardait que ce qui est encore lisible. Alors j'aime bien cette
C'est
idée
confier
aussi.
finalement au
Oui.
hasard ou à un
On
tiers, à
perd
ton ignore
des
tout,
choses.
le soin de faire le tri,
Ouais,
quoi.
ouais, ouais.
C'est très. Et donc, tu as fait comme ça un peu, non?
Non, bah, je m'appelle, je suis pas Jacotet, hein, mais loin de là. Mais j'aime bien cette idée que les choses peuvent se perdre, voilà, mais que d'autres restent et c'est intéressant. Je travaille pas comme ça, mais j'ai perdu des choses, oui, voilà, c'est pas tragique. Mais en tout cas, c'est une accumulation, il y a beaucoup de choses qui étaient en amont de ces recueils.
J'ai demandé à Cédric de nous lire peut-être un ou deux textes.
Je n'ai jamais demandé à être un guerrier. Je voulais juste des mots à papeterie. Et par une aube de granit, je grelotte. Le vent console, le feu couvert. Alors j'écris comme j'oublie, en attendant la neige. Et mon ombre glisse à côté de mes pas, comme un poème en suspens crépusculaire. Au matin, j'aurai atteint la maisonnette, allumé la lampe tempête, où titubent les décrets du vent. Ici se noie le cri. Je suis l'arbre qui apprend de la nuit, cueille la vérité du vent. Dans les silences ensevelis crépite le long sommeil de l'horizon. Dans l'âtre du nuage frémit une ombre entêtée, une voix aveugle qui rayonne sur la plaine abandonnée. Et ce jour, plus fier qu'hier, marche sur mes cendres, tandis que je suis là, à scruter le couteau en équilibre sur le rebord de l'assiette, pour l'instant.
Voilà, donc c'est un extrait, je vous rappelle, d'Au matin de la grande journée de Nicolas Grozdievitch, publié aux éditions La Centaurée, le troisième livre d'un triptyque. Et dans celui-ci, il y a peut-être un peu plus, me semble-t-il, c'est resserré en fait. Peut-être que les thématiques sont resserrées, plus centrées sur toi, sur ce que tu vis. Et il y a la mort aussi.
Oui, bien sûr, elle était présente dans les deux précédents, mais là,
Là,
elle est beaucoup plus
ouais.
présente parce que je vais quitter cette maison qui m'a accueilli. C'est un triptyque, donc je sors de cette aventure-là pour l'instant. Et on peut pas quitter des choses sans se poser des questions essentielles, de l'âge, de la vieillesse. Et d'ailleurs, le poème inaugural. Enfin, le poème qui a déclenché en 2016 l'aventure est une question de vieillesse, quoi. Et de, ça, oui, c'est des thèmes fondamentaux, mais c'est notre histoire. C'est-à-dire qu'on peut, on pourra rentrer dans cette journée qu'au prix de ces questions qu'on se sera posées, sans quoi ça sert à rien, quoi. C'est pas la peine d'y aller.
Ouais.
Hein. Il y a un G majuscule à grande d'ailleurs.
Oui. Je pense à un poème de Cadou qui parle comme ça, comme si la vie ne serait-ce ne serait qu'une longue journée finalement, facile à vivre avec de grands yeux étonnés. Est-ce que tu poses de grands yeux étonnés sur le
Étonné,
monde?
parfois oui, parfois non, parfois un peu
Ouais.
désabusé. Et vraiment, voilà. Il y a aussi dans ce texte, dans ce recueil, je crois qu'il y a, il y a un, il y a, par opposition à la grande journée, il y a un texte qui dit, et si c'était une journée plus courte, quoi, beaucoup plus courte, plus resserrée. Voilà. Oui, j'ai un œil, j'observe, je vois
Oui.
tout. Voilà. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, puisque tu écris, tu es poète. On est traversé par des choses infimes. Et les transcrire, c'est important.
Oui.
Voilà, c'est ça l'étonnement. Hein. C'est la démarche philosophique aussi, hein, je crois. Voilà, c'est.
Est-ce que, parce que tu l'as dit, il faut le lire en continuum, est-ce que ça a été écrit en continuum? Enfin,
Oui.
est-ce que les trois.
Oui.
Ah oui, quand même,
C'est
ouais,
très
d'accord.
important. C'est très important. Ça,
D'accord.
la question que tu poses est très importante. Je vais essayer d'être court. Les trois recueils ont pris un an de travail. D'écriture, avoir plus d'un an pour les deux premiers. Le dernier a été écrit de manière beaucoup plus resserrée, beaucoup plus incisive et rapide. J'écris à la plume dans des carnets. Quand je commence à noircir mes carnets, ça s'est produit les trois fois. Au milieu du carnet, j'ai la vision de la fin. Donc je vais à la fin de mon carnet et j'écris les derniers textes à rebours. Dans le cadre du dernier recueil, c'est les quatre derniers textes qui se sont imposés. Donc j'ai écrit à la fin de mon carnet mes quatre derniers textes à rebours. Puis je reviens là où j'en étais précédemment et je repars dans le bon sens jusqu'à toucher la fin du carnet.
C'est-à-dire que c'est comme si tu avais déjà
J'ai une vision.
une vision complète
Oui,
de
oui.
l'ensemble. Ça, c'est quand même assez
Oui,
étrange,
oui,
hein,
oui,
non?
oui.
Non?
Ben, c'est plutôt propre à la nouvelle ou au roman, j'en sais rien, mais en tout cas, ça
Ouais.
marche aussi pour la poésie, la preuve.
Ouais.
Et alors, l'éditrice n'est pas dupe, elle l'a très bien senti, d'où l'âpre négociation entre elle et moi sur la suppression des titres. Moi, je voulais pas, bien entendu, pour moi, le titre, c'était une balise, et elle m'a très bien fait comprendre que, ben non, puisque j'écris comme ça, il faut gommer. Il faut donner au lecteur la possibilité d'être encore plus dans le texte, quoi,
Ouais.
et d'aller dans le bon sens.
Tu parles de gomme et Jane Guilvig disait que
Très
il y
important,
a,
Guilvic, dans mes lectures
dans tes
aussi. Ouais,
lectures, qu'il y a deux instruments, il y a le crayon puis il y a la gomme, et que la gomme c'est aussi important que le crayon.
ouais.
Est-ce que pour toi c'est pareil?
Oui, c'est
C'est
la rature. Hein.
oui.
Enfin, comme quand j'ai pas, j'ai un stylo, je raye. Mais oui, c'est important, très important, la gomme.
Ouais.
L'effacement, soit ma façon de resplendir.
J'ai à côté.
Voilà.
Il nous reste plus que 7 minutes. On va terminer par une lecture, mais je voudrais juste quand même te poser une question. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es d'origine polonaise. La Pologne,
Ouais.
c'est la voisine de l'Ukraine. Je voudrais
Ouais.
savoir comment tu vis ce qui est en train de se produire, cette guerre en Ukraine,
Je
cette
revois
guerre en Europe.
l'histoire, j'ai des visions d'horreur. Je revois l'histoire de mes grands-parents. Je repense à leur trajectoire qui a été très difficile, aux problèmes alimentaires qu'ils ont eus, qu'ils ont traversés. Et c'est des visions d'horreur. J'ai du mal à m'exprimer, c'est confus. Mais c'est des visions très douloureuses et de souffrance, de déplacement, de peur, de faim, de froid. Ils me l'ont raconté,
Ouais.
donc je
Tes parents
sais.
sont arrivés à quel... tes grands-parents, excuse-moi, sont arrivés à quelle époque?
Ils sont arrivés juste avant. Mon père est né en 37. Ils sont arrivés avant la Seconde Guerre mondiale.
Avant la Seconde Guerre mondiale.
Mon grand-père était, lui, dans une région qui était tantôt allemande, tantôt polonaise, qui était tantôt. Il allait à l'école allemande, puis polonaise, puis à nouveau allemande, puis voilà,
Comme
jusqu'au
les
moment,
Alsaciens, finalement.
jusqu'au moment où c'était fini, quoi. Quant à ma grand-mère, elle venait d'une autre partie de la Pologne et elle était très très pauvre. Ils ont vraiment connu des moments très durs. Et moi, par rapport à ce qui se passe actuellement, vision d'horreur. Je peux la formuler comme ça. Je vois les gens vivant dans des caves, souterrains, partant sur les routes sans rien. Oui, mes grands-parents m'ont raconté ça.
Ouais.
Donc, ça me parle. C'est une répétition.
Oui, c'est une répétition.
C'est une répétition effroyable, effroyable.
T'es plutôt un pessimiste pour ce qui...
J'ai vu une émission hier soir. J'ai vu une émission hier soir qui en dit long sur les enjeux humains, économiques, les traders et tout ça. Et j'ai vraiment très peur. Oui. Franchement, j'ai peur. Alors tantôt, je me dis j'y crois. Je me dis bon voilà, on est quand même. Mais c'est l'effroi qui me glace là. Vraiment. C'est une répétition.
C'est une répétition Ben oui. Merci beaucoup Nicolas. Je rappelle. Le titre de ton dernier livre, Au matin de la grande journée, donc c'est aux éditions La Centauré, il faut lire les deux premiers. Donc on peut
Ils peuvent se lire séparément,
mais c'est encore mieux. Hein. Si on peut, lire les trois, c'est mieux. C'est mieux pour tout le monde, pour l'éditeur, pour l'auteur et pour le sens, hein, tout simplement.
Pour le sens.
Cette aventure.
Surtout pour le sens.
Et donc on peut se les procurer, bien évidemment, ici à Châtre-Alès-Perluette. On peut les commander à son libraire.
Acheter en ligne. Il est déposé aussi chez quelques libraires en Bretagne, puisque mon éditrice est dans la région rennaise. Voilà.
Voilà. On va se quitter avec la belle voix grave de Cédric Merlan, que je remercie ici, et qui va nous lire donc des poèmes encore extraits de ce livre. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci, Christophe. Merci beaucoup à toi. À très bientôt.
Au détour du ciel, une cataracte d'étoiles comme une pluie lascive, où l'oubli des jours dort, du sommeil des flammes. J'habite le rêve d'avant les pluies, le temps des pierres, où le poème saisit la rivière au souffle de la brume. Au virage des étoiles, la lumière me sauve, autrement. Au bout de mon doigt, il y a cette coupure, et je revois le fil de ma vie, comme l'entaille du jour s'amenuise quand l'ombre a rudoyé la rosée, désormais imperceptible. Tout s'apaise indiciblement, et peut-être un jour saurai-je pourquoi ma vie se résume à l'embarras du labyrinthe. Et mes mots ne m'appartiennent plus, cailloux jetés au fond du puits où rêve une eau fraîche. Feu mouillé. Au large, je demeure. Le temps plissé a changé ses ailes, et ici, j'envie la lenteur du ciel. Par un décembre de vin et de châtaigne, le bout du chemin retient l'horizon. J'habite ici, une terre d'écume, où l'instant palpite comme un rêve évidé. La lune inaccomplie veille au souffle du lac engourdi. Et dans les yeux du vent, des rubans en cohorte, où l'aigre duvet flotte au-dessus des forêts de pierre, en feu. Au camp de base, l'air souffle le safre. Et aux secousses d'un instant arraché à la terre, nous titubons à fleur d'écume, comme un vœu vacille dans la récompense du soleil. Un point à l'horizon, et je marche, et... Ma mémoire aux lèvres d'argile chante pour l'herbe, à voix basse. Et je marque bout dans l'ombre du commencement. À contre-jour, le poème écoute les questions du vent. Lui se souvient du sable. Comment en est-on arrivé là? Dans sa solitude sanguine, le temps ne bouge pas. Il sait son chemin. Et nous laisse éparpiller la mue des mots. Alors, je me suis assis sur un banc et j'ai vu au loin ma jeunesse là-bas. Thank you.
Et voilà, après ce très beau moment passé en compagnie de Nicolas Grudziewicz, je vous propose de rejoindre sans plus tarder notre ami Claude Verset, poète, excellent revuiste au sein de la revue Des Charges, excellent critique, et il va nous revenir. Il arrive toujours à trouver chaque mois un nouveau coup de cœur, preuve s'il en est que l'édition de poésie francophone se porte très très bien.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Christophe. Comme c'est curieux, ces regards de femmes, de poètes, de femmes poètes, qui se tournent vers l'Ouest américain, qui se font indiens, afin de réfléchir sur leur place dans la société, communiquer leur mal-être. Il y eut naguère les poèmes westerns d'Estelle Fenzi sur des photos de Bernard Plessu. Il y eut ensuite « Rouge peau rouge » de Florence Saint-Roch. Il y a aujourd'hui une femme, c'est un Indien, que Muriel Camac, poète que nous connaissons bien depuis « Vitre ouverte », qui est le numéro 155 de la collection Polder, et qui donne de fréquentes contributions à la revue Des Charges. Une femme, c'est un Indien, que Muriel Camac propose aux éditions Exopotamie, sous une remarquable couverture de Karine Rougier. L'équivalence entre femme et indien, thème dont les variations seront développées au long des 9 parties du livre, est posée avec force dès les premières lignes, que je cite. Il était une fois un indien, une femme. Une femme, c'est différent, différent d'un homme. Une femme, c'est un indien. Un indien, donc quelqu'un de complètement différent. Indien, écrit-elle, et pourquoi pas indienne? On peut s'en étonner. Une réflexion un peu plus loin sur l'ambiguïté du mot « homme » fournit une possible clé. Je cite « Homme, ça veut dire pas femme, et ça veut dire aussi femme et homme ». On ne sait jamais exactement ce que ça veut dire, mais on peut le danser quand même très bien. On n'a pas toujours besoin de tout savoir exactement. Alors, indien, c'est, si j'ai bien compris, indienne et indien. En tout cas, l'antithèse de cette désignation, autrement dit, ceux qui ne dansent pas avec les indiens, semble bien être les hommes en costume. Et l'auteur, selon la fiction qu'elle développe, on parle en connaissance de cause. J'ai aimé un homme en costume, un homme en mission. Il n'a pas voulu quitter son Dieu pour moi, marcher sur la même terre que moi, et je ne quitterai pas ma terre pour lui. Ce poème, que je cite dans son intégralité, donne la ligne générale du livre, la forme autant que le ton, allusif, hein, pas besoin de tout savoir exactement, d'une fausse naïveté avec ses sous-entendus ironiques qui s'autorisent, mine de rien, des évocations plus inquiétantes. Des cruautés rôdent dans le noir, est-il justement affirmé. Quand on m'a coupé les mains, je n'ai rien dit, parce que ça arrive. Les clichés sur les femmes ont la vie dure. Muriel Camac ne craint pas de les prendre en charge, de les pousser jusqu'à l'absurde. Ainsi, insinue-t-elle, alors qu'il reste dans l'ordre des choses que l'homme joue les Ulysse, héros toujours en quête et qui repart toujours, citation, la femme, elle, semble vouée à la tapisserie, c'est le titre du premier fragment, hein, n'y voyez pas un hasard, vouée à demeurer une Pénélope, celle dont l'histoire n'est pas très intéressante, c'est une citation. Poème. L'histoire est celle d'une héroïne et l'héroïne est en quête. En fait, je vais vous expliquer. Elle n'arrive pas à partir. Elle n'est pas encore mariée, elle doit dormir en attendant. Elle est mariée, elle est enceinte, elle est trop grosse, n'en parlons pas. Elle a un enfant, elle doit s'en occuper, elle est coincée sur une île. Elle ne veut pas se marier, rester sans enfant, ce n'est pas possible. Ça ne peut être une héroïne. C'est sûrement une sale pute. Donc, une femme, c'est un Indien, c'est entendu. Mais tout n'est pas si simple, puisque Socrate aussi est un Indien. Décidément, il va falloir que vous vous décidiez à lire ce livre pour y voir clair. Ce livre de Muriel Camac, Une femme, c'est un Indien, aux éditions Exopotamie, qu'on trouve à la maison Lousteau, quartier Pessarou, 64 240, La Bastide Clérance. 100 pages, 17 euros. Allez, bonne lecture et à bientôt.
En définitive, peut-être sommes-nous tous, chacun, chacune, l'Indien de quelqu'un ou l'Indienne de quelqu'un. C'était Mary Sue. On parlait d'indienne tout à l'heure. Mary Sue, chanteuse folk américaine, jeune chanteuse folk américaine de la nouvelle génération, est d'origine amérindienne par sa mère. Voilà, je vous propose à présent de retrouver notre amie Cécile Guivarche, poète, mais aussi animatrice d'un excellent site dédié entièrement à la poésie contemporaine qui s'intitule Terre à Ciel. Je vous conseille vraiment de le fréquenter. Terre à Ciel bénéficie du concours de nombreuses critiques, de nombreux, je dis nombreuses parce qu'il y a beaucoup de femmes sur Terre à Ciel. Il y a aussi des hommes, bien évidemment. Et cette revue en ligne vous donne un panorama aussi complet que possible de la poésie contemporaine. C'est un complément indispensable à la revue papier des charges.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Je voulais vous parler là d'un livre de Victor Balzac qui est paru aux éditions La Crypte. Alors, ce livre il s'appelle « Respire ». Et avant d'en parler, je voulais dire quelques mots sur cette maison d'édition, La Crypte, qui en fait fait un gros travail pour faire découvrir de nouveaux auteurs, avec notamment un prix spécifique. Et d'ailleurs, ce livre « Respire » a reçu le prix de La Crypte en 2019 et qui récompense un jeune auteur. Donc, qui est Victor Balzac? En fait, il publie ici son premier recueil. Il est né en 1997 et son premier recueil est publié ici à La Crypte avec le prix. Il a obtenu le prix en 2019. Donc, c'est vraiment pour moi une découverte et je salue au passage encore le beau travail de cette maison d'édition pour nous faire découvrir comme ça des auteurs tout jeunes. Alors, dans ce livre, il y a de la fraîcheur et de la gravité mêlées. Dans le titre, déjà, il y a le mot « respire ». Ça pourrait être une invitation à laisser la vie s'infuser dans le corps. On pourrait croire que c'est vraiment un livre sur la respiration, mais à côté de ça, il y a beaucoup de gravité, parce que le recueil s'ouvre et se ferme sur l'idée d'ouvrir le corps à la vie. Parce qu'entre les deux, le lecteur, il lit beaucoup de douleurs, celles qui empêchent justement de respirer. Alors cet auteur, il fait vraiment un travail d'écriture là très intéressant, avec une belle faculté pour manier l'image et surtout pour renouveler l'image, parce qu'il utilise des images qu'on, à mon avis, on ne voit pas forcément dans d'autres livres. Donc il a vraiment une faculté d'inventer l'image. Il y a beaucoup de force d'évocation déjà c'est dans son livre et une maturité d'écriture. Et en plus, dès les premières pages, on a vraiment envie de le suivre dans son cheminement. Il fait des réels tours de langue. Il fait croire au premier abord que tout respire, qu'il y a de l'amour, qu'il y a du corps, qu'il y a du cœur. Mais au bout de quelques pages, on voit qu'un verre tombe et on entend que ça rit un peu trop fort. Et on ressent que quelque chose n'est pas si respirable que ça. C'est un livre pour ne pas oublier de lutter contre la solitude qui envahit à la guerre au vide. Essayer de laisser la survie s'installer et de se mettre en fait à respirer. Et c'est vraiment en final un vrai hymne à la vie avec beaucoup de respiration et de respect pour le corps. Et il y a une vraie sincérité en fait dans ce livre, donc c'est pour ça qu'il m'a beaucoup plu. Ce ton grave et à la fois léger, parce que de ce ton grave, il y a la fraîcheur peut-être liée à un travail d'écriture encore jeune. Donc pour ça, c'est un coup de cœur et j'adresse tous mes encouragements à Victor Balzac pour la suite. Donc je vous lis juste un petit extrait. Je respire à l'aide maintenant. Je me sens bien aujourd'hui, par exemple. Je ne suis pas un athlète, mais c'est dingue. Ce corps est devenu si puissant. D'un coup, mon corps est devenu la force, la vie même. Je suis brutal, je peux faire de grands sauts de plus en plus haut avec. Je peux m'envoler presque. Et me voilà sur le stade grec, enfin presque. Je mange mon passé, je le dévore. Il m'alimente comme des protéines. Voilà, c'était Respire de Victor Balzac aux éditions La Crypte. Je vous dis à très bientôt.
Et hop, dans ma musette. Et nous n'en avons pas fini avec nos samplettes poétiques, puisque s'annonce notre ami poète Patrick Jockel, qui lui aussi a des choses et des merveilles à nous faire découvrir. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Rancienne. On se retrouve d'ici une quinzaine sur la route inconnue.
Eh bien, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je ne vous parle pas de moi en Sartou aujourd'hui, mais des studios de Radio Grand Ciel à Chartres. On a profité d'un petit séjour voyage livre dans la région pour passer voir Christophe et toute l'équipe de la radio et en profiter pour enregistrer quelques chroniques. La première, c'est une chronique de circonstance puisque c'est une anthologie sur le thème de l'éphémère, le thème de notre printemps des poètes actuel. C'est édité par les éditions Pourquoi viens-tu si tard, situées à Nice, et son titre, Éphéméride, feuilles détachées. Une anthologie fort sympathique sur le thème du printemps des poètes 2022, accompagnée de photos de Marilyn Bertoncini, des feuilles d'automne, encore sur l'arbre ou bien sur le sol. Comme les pages qu'on effeuille sur un éphéméride. Une ambiance douceur, une ambiance couleur. Un brin de nostalgie, le temps qui passe, les souvenirs en suspension et leur chute aérienne, évanescente, suivie de ce petit bruit au contact du sol. J'ai été, je suis, je... Des poèmes divers, comme dans toute anthologie, chacun y fera son marché. Personnellement, j'ai mis dans mon panier les poèmes de Hans Gesten, Marilyn Bertoncini, comment résister à un poème sur le kaki quand il est présent dans un de mes albums et dans chacun de mes automnes, Brigitte Brock et son passagère du poème. Je vais... Jusqu'au bout de la page, jusqu'au bout de la nuit, dit-elle. Ou bien encore un haïku de Ghislaine Lejar, calame dans le jardin, sur la page du ciel, une calligraphie de silence, et tant d'autres poètes à découvrir. Une autre particularité de cette anthologie, c'est son ouverture au monde. Des poètes de plusieurs pays sont présents avec leurs poèmes en langue originelle et traduits, parfois en passant par l'anglais. Une heureuse initiative à saluer. Je vous ai cité Hans Gesten. Je vais vous lire son poème. Fièrement se dressent les pissenlits sur les ronds-points dans le vacarme des zones de transit frénétique. Je les rencontre tapis au niveau du regard des chiens. Des grappes de rayons filtrent à travers les douces tiges de papier vélin. Tout flotte comme le feuillage dans le jeu clair-obscur d'une forêt magique, subtile et si légère, presque transparente, de sphères, de graines rayonnantes, riches d'infini possible. Il suffit d'un souffle de vent pour une vie nouvelle dans les fissures du quotidien. C'est mon Komorebi, drogue du bonheur made in Japan. On la trouve à n'importe quel coin de rue, n'importe quand. Le mot Komorebi, K-O-M-O-R-E-B-I, c'est un mot japonais qui désigne la lumière du soleil qui filtre à travers les feuilles des arbres. Et le poème de Marilyn Bertoncini, les kakis. L'automne est un brasier tourmenté. Il enflamme les feuilles de l'arbre qui se tord sous le poids de ses fruits, braise promise à tes lèvres. La laque rouge du feuillage ensanglante le rue, et le fruit dans ta main a le poids un peu mou d'un sein vermeil et doux sous la soie de sa peau qui se fendit un peu comme pour un baiser. C'est un soleil couchant que tu portes à ta bouche en dégustant l'instant, maintenant et à jamais.
Can you tell us the place? place where love is like a perfectly quilled arrow flown from bows of pure willow, and under the thundering roll of ghost buffaloes, oh, can't you hear? sisters, hair from your brothers, hair from your lovers, hair from the beavers, hair from the otters. But hair from your mothers, hair from your fathers, hair from your lovers, hair from the beavers, hair from the otters. A candle through a buffalo's eye.